Chers auditeurs, dans l'action proprement pastorale de Mgr Dols, évêque de Bayonne au XVIIe siècle, nous retiendrons aujourd'hui trois points. Le premier concernera son officialité. L'officialité, c'est le tribunal ecclésiastique, le tribunal qui, au nom de l'évêque, juge les causes qui lui sont soumises, c'est-à-dire, hier comme aujourd'hui, les causes qui concernent le statut juridique des personnes établies par le sacrement de baptême, celui du mariage et celui de l'ordre. Au XVIIe siècle, l'officialité s'occupait également du contentieux bénéficial, c'est-à-dire des difficultés surgies à propos des biens d'église, ces biens d'église dont les revenus assuraient la subsistance du clergé. Nous l'avons dit, le territoire du diocèse de Bayonne dépendait de deux royaumes, celui de France et celui de Navarre. Et chez les Navarrais, c'était une règle qui n'admettait pas d'exception de ne pas être jugé, même sur le plan religieux, en dehors du territoire du royaume de Navarre, à l'étranger, c'est-à-dire à Bayonne, qui se trouvait en France. D'où la nécessité pour les évêques de Bayonne de dédoubler leur officialité, leur tribunal. L'une de ces officialités siégeait à Bayonne, dans un local situé dans les cloîtres de la cathédrale, et l'autre se trouvait à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le prêtre majeur de cette ville, c'est-à-dire son curé, était vicaire général de l'évêque de Bayonne et son official. Et le problème était le même pour l'évêque de Dax, qui avait un official au siège de l'évêché à Dax et un autre en Navarre à Saint-Palais. Les Bas-Navarrais ne cesseront pas de réclamer le maintien de ces vicaires généraux et encore plus celui des officiaux à Saint-Jean et à Saint-Palais. En 1642, les États de Navarre demandaient pour les deux officiaux le pouvoir d'administrer la justice ecclésiastique au sujet du dit royaume de Navarre selon la loi de ce dernier et indépendamment des officiaux établis à Dax et à Bayonne où les évêques avaient leur siège. Et le règlement des États de Navarre, le fort de Navarre également, celui de 1611, spécifiait au sujet des laïcs que ces derniers ne seront pas appelés devant un juge ecclésiastique pour des affaires purement temporelles et que pour les causes ecclésiastiques, il ne sera fait aucun empêchement au juge ecclésiastique. Les documents manquent malheureusement pour pouvoir dire que ce règlement était scrupuleusement respecté et que l'une des juridictions n'empiétait pas parfois sur le domaine de l'autre. Ce qui est certain, c'est que Mgr Dols n'était pas satisfait du fonctionnement de l'officialité de Saint-Jean-Pied-de-Port. Pas plus d'ailleurs que son confrère de Dax ne l'était du travail de l'officialité de Saint-Palais. Nous ignorons pour quelles raisons il n'était pas satisfait. Peut-être même contestait-il sa nécessité. Ou plus simplement trouvait-il l'official de Saint-Jean-Pied-de-Port trop indépendant. Quoi qu'il en soit, en 1650, Mgr Dols va établir une officialité à l'abbatie de Clérance, séparée de celle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais cette officialité de l'abbatie de Clérance aura une existence bien éphémère. En 1674, Mgr Dols va renouveler sa tentative, mais cette fois en transférant le siège de l'officialité de Saint-Jean-Pied-de-Port à Ossès, ce qui va entraîner les plus vives protestations des États de Navarre. Mais deux ans après, Mgr Dols mourait à Ossès et l'on revint rapidement au statu quo ante. Un autre problème qui n'en finissait pas de se poser, qui se posera avec beaucoup d'acuité sous l'épiscopat de Mgr Dols, c'était l'installation des jésuites à Bayonne. Les déboires qu'ils avaient connus récemment ne les avait pas découragés. Sous prétexte de mission à Saint-Étienne, ils vont s'installer au quartier du Saint-Esprit avec l'autorisation de l'évêque de Dax. Car vous le savez, Saint-Esprit était dans le diocèse de Dax. À Bayonne, les autorités religieuses et un certain nombre de magistrats municipaux se montraient favorables à l'installation des jésuites à Bayonne. Mais parmi les bourgeois et les négociants bayonnais, ce fut un tollé. Aux arguments traditionnels de risques graves de désordre dans la ville occasionnés par une concentration importante d'étudiants dans un espace si restreint, on ajoutait des insinuations malveillantes sur leurs intentions secrètes. On laissait entendre qu'avant 10 ans, l'ordre de jésuites serait le maître d'une grande partie des biens des environs. Une fois de plus, les habitants de Bayonne s'opposèrent absolument à leur venue et à leur installation, même au Saint-Esprit. Mais cette fois, les jésuites pouvaient se prévaloir de l'appui et de la protection du roi. Les magistrats municipaux reçurent de lui une lettre qui était une mise en garde. « Nous prenons, disait le roi, les pères sous notre protection et nous désirons qu'ils demeurent au Dibourg de Saint-Esprit. » Et le roi rappelait aux Bayonnais qu'ils auraient à répondre des préjudices que les jésuites pourraient subir. Rien n'y fit, et des manifestants allèrent même saccager les maisons des jésuites à Saint-Esprit. Et les échevins durent se rendre auprès du roi pour se justifier. Mais Monseigneur Dols, qui se trouvait alors à Paris, fut pour eux d'un précieux secours. Grâce à lui, la volonté d'apaisement l'emporta. Et le roi adressa aux échevins une lettre où il leur disait « Bien que la faute de quelques-uns des 10 habitants mérita châtiment, nous avons pourtant mieux aimé user envers eux de clémence que de sévérité afin de faire cesser cette division dans la ville. » Au siècle suivant, en 1747, Monseigneur d'Arche, nous le verrons, fera une ultime tentative pour faire admettre les jésuites à Bayonne, mais en vain. Les disciples du basque Ignace de Loyola ne pourront jamais s'implanter dans la ville natale du basque du Vergier de Oran. Nous avons dit que ce personnage, Jean du Vergier de Oran, chanoine de Bayonne, devenu abbé de Saint-Sidon, ne revint probablement jamais à Bayonne après son installation à Paris auprès des solitaires et des religieuses de Port-Royal. Mais sa réputation avait certainement atteint Bayonne. On était quand même fiers de lui. Et sa mémoire, après sa mort en 1643, demeurait en vénération dans sa ville natale. En 1657, l'année des troubles avec les jésuites, c'était un jésuite, le père Dufresne, qui occupait la chaire de la cathédrale pour le carême. Il souleva l'indignation de la population quand il s'avisa de traiter M. l'abbé de Saint-Cyran comme un hérétique. Alors que la sainteté de sa vie, nous dit un chroniqueur de l'époque, jointe à l'éminence de sa doctrine, était révérée de toutes les personnes de vertu et faisait un des plus grands ornements de la ville. En cette même année, 1657, une polémique commençait à secouer l'Église de France, celle que soulevait le fameux formulaire de soumission à la condamnation des 5 propositions extraites de l'Augustinus, le livre de Jansénius, l'ancien principal du collège de Bayonne, le solitaire de Camp de Prats. À la soumission exigée par le pape Alexandre VII, l'Assemblée du clergé de 1660 prit une décision particulièrement sévère. Tous les ecclésiastiques du royaume seront obligés de signer le formulaire et nul ne sera promu aux ordres ou à quelque bénéfice s'il n'a pas au préalable signé le formulaire. Des peines très lourdes étaient prévues contre les récalcitrants séculiers ou réguliers. Monseigneur Dols partageait sincèrement le point de vue de l'Assemblée et celui du pape Alexandre VII. A-t-il fait signer le formulaire aux prêtres et aux religieux de son diocèse, on peut légitimement le penser. Mais la seule trace qui nous en reste est celle des pères capucins, qui signèrent le fameux formulaire le 2 août 1661 à la demande de l'évêque. Nous pouvons ajouter qu'il n'y a aucun indice de difficulté soulevée au diocèse de Bayonne au XVIIe siècle par l'introduction éventuelle des idées jansénistes durant donc cette seconde moitié du XVIIe siècle. Nous verrons la prochaine fois, en parcourant les statuts synodaux de 1666, quelle était à Bayonne et au Pays Basque la vie chrétienne et la pratique religieuse des fidèles.